16h-18h sur Europe 1,
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Vous êtes au cœur de deux heures d'histoire décomplexée et décomplexante. Historiquement vôtre s'intéresse cet après-midi aux as du cache-cache. Après Nefertiti, qui s'est tellement bien cachée qu'on n'a jamais retrouvé sa tombe, voici maintenant l'histoire d'un génie dont, comme Stéphane Bern, on retiendra ses chefs-d'œuvre.
Et son goût de la débauche.
Oui, aussi. Voici l'histoire peu connue du cache-cache de Michel-Ange.
Historiquement vôtre. Le récit.
Cette fois-ci, il ne s'agit pas de trouver le lieu de sa sépulture. Non, on sait parfaitement où repose le grand Michel-Ange, génie de la Renaissance italienne, sculpteur virtuose, peintre de l'époustouflante chapelle Sixtine et architecte de la coupole de la basilique Saint-Pierre. Oui, il est enterré dans la basilique Santa Croce à Florence, auprès d'autres personnalités florentines et italiennes comme Dante, Galilée et Machiavel. Non, notre seconde histoire porte sur un épisode assez méconnu de la vie de Michel-Ange. Cet épisode, vous allez le voir, est digne d'une fiction. Il implique un pape et la puissante famille des Médicis. Une révolte, une cavale et surtout un trésor caché pendant des siècles dans une cave de Florence. De l'œuvre de Michel-Ange à Florence, on connaît son David, sculpture mythique, l'une des plus célèbres au monde. Les plus initiés connaissent également les allégories monumentales de la Sagrestia Nuova. La Sagrestia Nuova.
Oui, plutôt.
La Sagrestia Nuova. La Sacristie Neuve. Mais vous n'aimez pas mon italien. Élaborée par Michel-Ange dans le complexe des chapelles Médicis et de la basilique San Lorenzo. Mais ce que les touristes connaissent moins, c'est un autre trésor. Caché dans une chambre située sous la Sagrestia Nuova, une chambre découverte par hasard en 1975 sous une trappe en forme de porte, dissimulée dans un réduit situé derrière la sacristie. À l'époque, le directeur des chapelles des Médicis, Paolo dal Poghetto, n'imagine pas un instant ce qu'il va découvrir. D'ailleurs, quand des ouvriers entrent pour la première fois dans cette cave humide, plus longue que large et d'à peine 7 mètres sur 3, ils n'y trouvent qu'un simple espace encombré de détritus au mur, recouvert de suie et de boue. On sait que cet espace servit longtemps de cave à charbon et qu'il fut inondé lors de la crue historique de l'Arno en 1966. Mais très vite, le nettoyage de la pièce va mettre au jour des sortes de gribouillis cachés sous des couches de saleté et de peinture. Les couches de peinture et de plâtre qui recouvrent les esquisses sont enlevées petit à petit. Alors apparaissent des dizaines de dessins au fusain, miraculeusement épargnés par les siècles. Ils recouvrent entièrement les murs de la pièce jusque sous la voûte. C'est un carnet de dessins grandeur nature. Très vite, dal Poghetto et les experts dont il s'entoure y reconnaissent des scènes, des figures expressives, des éléments anatomiques, une manière saillante de dessiner la musculature, une puissance de suggestion qui font penser à l'œuvre de Michel-Ange. Le dessin d'un doigt rappelle de manière frappante, vous savez, l'une des fresques les plus célèbres de la chapelle Sixtine du Vatican, celle où Dieu, le doigt tendu vers Adam, lui accorde le don de la vie. Un pied rappelle le David de Michel-Ange. Certains dessins rappellent même des œuvres que le directeur des chapelles des Médicis connaît par cœur. Elles se trouvent juste au-dessus de la chambre, dans la sacristie neuve, comme par exemple le dessin d'une statue de marbre décorant la tombe de Julien de Médicis. Mais alors, ces esquisses à même le mur peuvent-elles être de la main de Michel-Ange lui-même ?
Ou d'un fan, peut-être.
Et quand les aurait-il produites ? La théorie qui prédomine, c'est qu'au moins une partie de ses œuvres aurait été réalisée par l'artiste en 1530, lors d'un épisode sombre de son histoire et de celle de la ville de Florence. On sait de la bouche des premiers biographes de Michel-Ange, Vasari et Condivi, que cette année-là, alors traqué par les Médicis, il aurait trouvé refuge plusieurs semaines chez un ami. Cet ami, ben ce serait le prieur de l'église San Lorenzo. Et ce refuge, c'est notre fameuse cave. Mais au fait, pourquoi se cachait-il des Médicis, ces mécènes de longue date ? C'est ce que vous allez me demander,
mais
Mathieu.
Mais d'ailleurs, je vous le demande, Stéphane.
Eh bien, la raison de leur mésentente, c'est que Michel-Ange, fervent républicain, a participé à la Seconde République de Florence. Vous savez, une période de révolte qui chasse entre 1527 et 1529 la puissante famille des Médicis hors de la ville de Florence. Mais cette éviction ne va pas durer longtemps. Grâce au soutien du pape Clément VII, alias Jules de Médicis, et oui, c'est un membre de la famille, ils reprennent l'année suivante les rênes de la ville. Dans un contexte compliqué, alors que la peste et la famine font rage à Florence, Michel-Ange est traqué. Il craint pour sa vie et doit se cacher.
Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
Historiquement Vôtre continue. Chaque jour, trois personnages hauts en couleur et une thématique. Aujourd'hui, les As du cache-cache. Parmi eux, un certain Michel-Ange qui, pour fuir les Médicis, se retrouve contraint à un moment de sa vie de se cacher dans une cave.
Oui, Michel-Ange se cache dans cette cave depuis laquelle il peut guetter les mouvements de la rue par les lucarnes. 6 semaines, 3 mois, la durée diffère. Et les conditions de sa survie restent un mystère. Quoi qu'il en soit, la traque ne dure pas très longtemps. Michel-Ange obtient rapidement le pardon du pape Clément VII. Sûrement parce qu'il était avec Léonard, l'un des plus grands artistes de son époque. Les Médicis étaient bien placés pour le savoir et n'avaient peut-être pas envie de se passer de ses services. Reste encore une question. Est-on sûr de la paternité des dessins de cette chambre secrète? Eh bien, difficile sans signature d'affirmer avec certitude qu'ils sont de Michel-Ange. Mais il existe bien un consensus des experts sur le sujet. Oui, ses œuvres seraient bien celles de Michel-Ange Buonarroti. Toutefois, certains spécialistes restent sceptiques quant aux circonstances de la réalisation de ces esquisses. C'est le cas par exemple du professeur américain William Wallace, une autorité sur Michel-Ange. Pour lui, il n'est pas vraisemblable de penser que le grand Michel-Ange, véritable artiste star à son époque, ait pu passer des semaines enfermé dans cette pièce exiguë. Il se serait caché ailleurs, chez l'un de ses nombreux mécènes. Wallace pense que ses dessins dateraient d'une période antérieure, entre 1520 et 1527, pendant que Michel-Ange dirigeait des travaux dans la sacristie juste au-dessus. D'ailleurs, cette hypothèse expliquerait pourquoi certains des croquis de la chambre secrète sont jugés plus amateurs que d'autres.
C'est ce que je vous disais, Stéphane, oui. Tout à l'heure. C'était mon hypothèse, hein. Je tiens à le souligner.
Non, mais parce que vous avez lu mon texte. Certaines des esquisses pourraient avoir été réalisées par des ouvriers ou des commis de Michel-Ange, voulant se faire la main. Quoi qu'il en soit, la découverte de cette pièce en 1975 est considérée à juste titre comme l'une des découvertes artistiques majeures du XXe siècle.
Est-ce qu'on peut la visiter aujourd'hui, cette cave, ou pas, pour se faire sa propre idée?
Malheureusement, Mathieu, elle n'est toujours pas accessible au public, mais elle pourrait l'être bientôt. En 2017, la directrice du Musée national du Bargello de Florence avait annoncé son ouverture probable en 2020. Nous y sommes. Mais la crise de Covid-19 semble avoir retardé cette échéance. On verra bien. Mais on verra, je l'espère en tout cas.
J'espère. On ira ensemble, Stéphane.
Si vous voulez.
Dans cette cave.
On jouera à cache-cache.
On jouera à cache-cache.
Europe 1, historiquement vôtre.